Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Anthony Thomasson.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Deuxième jour de notre série européenne. Hier, nous sommes revenus aux origines de l'idée d'Europe, depuis le siècle des Lumières jusqu'aux débats qui ont accompagné l'invention d'une communauté de pays après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, examinons ensemble la place du continent européen dans la mondialisation. Face à la concurrence des géants américains et chinois, l'Union européenne multiplie les accords de libre-échange pour accéder à de nouveaux marchés. En décembre dernier, c'est un accord commercial avec le Japon qui a été ratifié par le Parlement européen, malgré les critiques des ONG de défense de l'environnement et des syndicats. À l'heure où la croissance ralentit en Europe plus que partout ailleurs, et tandis que de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer ces traités, faut-il réinventer la politique commerciale européenne ? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho ? Et pour démêler les fils de la politique commerciale de l'Europe, nous avons invité Léo Charles, maître de conférence à l'université de Rennes 2 et membre des économistes atterrés, Mathilde Dupré, chargée de campagne pour la responsabilité dans les accords commerciaux à l'Institut Veblen, et Cécilia Bellora, économiste au Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Léo Charles, Mathilde Dupré et Cécilia Bellora, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je disais, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon a été approuvé en décembre et le mois dernier. C'est un traité avec Singapour qui a été ratifié par le Parlement européen. Par ailleurs, l'Europe poursuit ses négociations avec plusieurs pays d'Amérique du Sud réunis au sein du Mercosur, ainsi qu'avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Comment expliquer d'abord cette prolifération des accords commerciaux, Cécilia Bellora ?
Alors en fait, la prolifération des accords commerciaux a surtout eu lieu à partir de la moitié des années 90, on va dire depuis 95 en fait, depuis la création de l'OMC telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc l'Organisation Mondiale du Commerce. Il y a vraiment eu un pic, enfin une croissance et un pic au début des années 2000, et depuis ça ralentit un peu, mais comme vous le dites, il y a encore des accords qui continuent à être signés.
Peut-être que désormais ce sont davantage des accords bilatéraux et régionaux.
Ce sont davantage, alors dans les accords dont je vous parlais, enfin dont je vous faisais un peu l'histoire, c'était effectivement des accords plutôt régionaux et bilatéraux dont je parlais. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les accords qu'on est en train de signer, ce sont plutôt des accords qu'on appelle de deuxième génération. C'est-à-dire que surtout au cours des années 90, début 2000, on a négocié sur des choses qui étaient uniquement liées à l'accès au marché pour les biens. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur l'accès au marché pour les biens, mais également pour les services. Donc on négocie sur les tarifs, mais également sur tout ce qui est barrière non tarifaire et sur lesquelles les sensibilités peuvent être beaucoup plus importantes. Et c'est pour ça aussi qu'on entend beaucoup plus parler de ces accords.
On va évidemment revenir sur ces barrières non tarifaires. Mais d'abord, comment comprendre les avantages économiques que l'Europe retire de ces différents traités, quels sont les arguments invoqués, Mathilde Dupré ?
Aujourd'hui, l'Union européenne négocie des accords de libre-échange pour aller plus loin en matière de libéralisation du commerce que ce qui a été décidé collectivement dans le cadre multilatéral de l'OMC. Elle invoque les bienfaits pour les consommateurs parce que ces accords sont supposés amener une baisse des prix de consommation en ayant accès à un éventail plus large de produits.
Parle aussi des PME et des travailleurs.
Elle parlait aussi effectivement des PME pour lesquelles on essaie de donner un accès privilégié au marché extérieur et au marché d'exportation. Et puis une hausse générale de la production et des échanges en allant chercher, c'est tout l'argumentaire de la Commission européenne, la croissance ailleurs, en dehors de l'Union européenne, pour s'arrimer aux pays qui sont le plus en croissance actuellement.
Un premier mot, Léo Charles, sur les bénéfices économiques de ces traités.
Alors, sur les bénéfices, ça a été bien dit, mais sur l'idée que c'est une seconde génération, alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut analyser ça aussi comme un frein de l'OMC dans les négociations multilatérales. Et donc on revient à des pratiques qui étaient celles du 19e siècle, de la première mondialisation, où finalement, face au blocage de l'OMC, on revient à des négociations bilatérales censées être plus faciles, plus aisées, notamment pour l'Union européenne.
Alors c'est la Commission européenne qui est chargée des négociations, ce qui a donné lieu et donne encore lieu à un certain nombre de critiques.
Après des années de négociations commerciales sur toute une série de pays qui se sont fait dans l'opacité, à l'abri des regards des citoyens et souvent même des parlementaires, il y a besoin de mettre de la démocratie et de mettre de la transparence. Et il faut que dans les négociations commerciales, la démocratie arrive au début, parce qu'il est absolument insoutenable qu'à la fin, des parlements soient mis devant le fait accompli et puissent dire simplement oui ou non, ou alors, comme certains voudraient le faire, simplement oui ou oui. Et donc il est important dans la refondation qui va venir maintenant de la politique commerciale européenne de mettre les parlements au début du processus. J'ai déjà fait des propositions là-dessus. Vous savez qu'aux États-Unis, les parlementaires ont le droit d'être dans le tour de table de négociation pour être informés. Je me suis battu pour que les parlementaires aient accès aux documents de négociation. C'est vrai pour le TAFTA maintenant, où ils ont enfin accès à cela. Je me suis attaqué à l'arbitrage qui permet d'attaquer les États, précisément parce que après 30 années de dérégulation néolibérale, il y a besoin d'un retour de la démocratie et d'un retour de la puissance publique dans les négociations économiques internationales.
Matthias Fekl, qui était alors ministre du Commerce extérieur, c'était sur France Inter le 2 novembre 2016. Il faisait référence au TAFTA, donc l'accord de libre-échange avec les États-Unis qui a finalement été abandonné. Il y a aujourd'hui encore un manque de démocratie dans la conduite de ces négociations commerciales, Matthias Dupré.
Alors, le manque de démocratie a été vraiment au cœur de la contestation par vraiment de très nombreux groupes de la société civile. Faut savoir que effectivement les parlementaires n'avaient pas accès du tout au contenu des négociations. Ensuite, ils ont eu accès à des salles sécurisées dans lesquelles, pour accéder, il fallait qu'ils laissent à l'entrée téléphone portable, ordinateur, etc. Et ils ne pouvaient rentrer qu'avec une feuille et un crayon pour aller consulter des textes qui sont assez difficiles d'accès, très longs. Et donc sans aucun soutien de spécialistes ou de personnes qui pourraient les aider à entrer dans la complexité des textes.
Et ça a évolué ?
Alors ça a un peu évolué. Effectivement, la Commission aujourd'hui publie davantage de documents, notamment elle publie les mandats de négociation, ce qui n'était pas le cas avant. Elle publie aussi ses offres un peu plus au fur et à mesure. Par contre, on n'a toujours pas accès aux textes consolidés de négociation au fur et à mesure qu'ils sont négociés, donc dans lesquels on pourrait voir aussi les positions qui sont tenues par les partenaires avec lesquels on négocie. Mmh. Et ça, c'est vraiment une anomalie, puisque aujourd'hui, dans toute autre sorte de négociation internationale, par exemple les négociations sur le climat, le texte consolidé de négociation est accessible à tout moment, ce qui permet à tous les spécialistes de la société civile, les experts, les chercheurs, etc., de pouvoir faire des propositions au fur et à mesure pour qu'elles puissent être prises en compte au moment où c'est encore possible, et pas seulement une fois que le texte final est négocié.
La transparence, Léo Charles, est encore un enjeu essentiel des négociations. Il y a encore beaucoup de progrès à faire.
À mon sens, il y a beaucoup de progrès à faire et on n'a pas parlé, peut-être qu'on y reviendra, ça a été dit dans l'extrait, des tribunaux d'arbitrage.
On va y revenir.
On fait passer l'idée que les traités de libre-échange seraient des traités pour favoriser la démocratie, totalement transparents. Or, il y a des éléments là-dedans qui sont assez inquiétants et finalement, on se demande si c'est pas le citoyen européen et même le citoyen de d'autres pays qui va un peu trinquer finalement avec ses accords commerciaux.
Mathilde Dupré.
Je voulais insister sur la difficulté pour les parlementaires aujourd'hui d'exercer un véritable contrôle des négociations commerciales qui sont menées par la Commission. Alors au Parlement européen, ça marche à peu près, c'est organisé, mais alors dans les parlements nationaux, c'est très très difficile et on l'a vu encore très récemment puisque les parlementaires français ont discuté d'une résolution sur le JEFTA, l'accord avec le Japon, il y a à peine quelques jours à l'Assemblée nationale, alors même que l'accord était déjà adopté et entré en vigueur, ce qui montre que aujourd'hui, vu la rapidité et le nombre très très élevé de négociations qui se mènent de façon parallèle, les parlementaires ont beaucoup de difficultés à avoir accès à l'information en temps et en heure et du coup à pouvoir jouer leur rôle et d'expertise et de pour essayer d'infléchir cette politique commerciale.
Cécilia Ballora.
Et c'est vrai, en fait, c'est ce que vous disiez au début, c'est que la politique commerciale est en réalité une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc ça veut dire que toute la partie démocratique se fait, alors ça peut encore être amélioré, mais au niveau du Parlement européen. Donc aujourd'hui, ben, on a vu passer, on a vu les discussions qu'il y a en ce moment avec, avec les possibles reprises de négociations avec les États-Unis, où il y a eu une discussion des mandats de négociation, donc du contenu de ce qui va être négocié, qui a été soumis au Conseil au niveau de l'UE, qui a été ensuite soumis au Parlement européen. Le Parlement européen a voté au moins en commission un texte pour demander que le mandat soit modifié. Et du coup, effectivement, beaucoup, une partie de la démocratie s'exerce aujourd'hui au niveau UE. Et il y a avec aussi la Commission qui commence à rendre de plus en plus compte de ses avancées auprès du Conseil, mais toujours au niveau UE. Et du coup, ensuite, c'est la redescente au niveau des États membres qui n'est pas toujours évidente avec, bon, en effet, des parlementaires qui se retrouvent parfois un peu perdus.
Mathilde Dupré. Mais même si c'est une compétence communautaire, il est quand même important que les parlementaires nationaux sachent exactement quelle est la position qui est défendue par la France au Conseil, puisque la France est quand même amenée à se prononcer au moment où on examine les mandats de négociation, donc au moment de l'ouverture des négociations, pour savoir ce qui va être mis dans les négociations, et ensuite contrôler la tenue de ces négociations, la conduite, et dire oui ou non à la fin. Donc il y a quand même un rôle pour les parlementaires nationaux pour regarder ce qui est fait par le gouvernement français.
Et ce qui est intéressant, c'est que ces accords commerciaux semblent s'appuyer sur une vision du libre-échange selon laquelle l'ouverture des échanges garantirait la paix. C'est déjà ce qu'écrivait Montesquieu au XVIIIe siècle. On en parlait à ce micro hier. Que pensez-vous de cette conception, Léo Charles, et qu'est-ce que l'histoire nous apprend peut-être à ce sujet ?
Alors là, effectivement, on est clairement dans l'idée du doux commerce de Montesquieu. Alors c'est un des thèmes des libéraux, des économistes libéraux, qui est encore très prégnant aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que les études nous montrent que finalement, entre 1870 et 2000, on n'arrive pas à tirer un lien très clair entre conflit armé et commerce. Alors ce qu'on sait, c'est que effectivement, quand on commerce de façon bilatérale avec un partenaire, il est plus difficile de se faire de la guerre, puisque ça augmente finalement les conséquences négatives d'un conflit. En revanche, aujourd'hui, on est dans une mondialisation où on a de plus en plus de partenaires. Et là, les études montrent que finalement, avec ce multilatéralisme, on n'a aucun lien entre commerce et paix, puisque si on fait la guerre avec un voisin, on peut très bien en partie changer les choses et commercer avec d'autres. Deuxième point, ce qui est intéressant quand on regarde les données historiques, par exemple en 1862, la France signe un traité de commerce avec la Prusse, et pour autant en 1870...
Ça n'empêche pas la guerre.
Et d'ailleurs, même en 1870, on continue à échanger avec la Prusse, avec l'Allemagne, quand bien même on serait en guerre avec eux. Donc là, on est vraiment dans un mythe, et on pourrait même rajouter que finalement, certains économistes mettent en avant le fait que le libre-échange est une guerre différente, mais c'est quand même une guerre. On est dans des situations de dumping fiscal, dumping social, dumping écologique, et donc si on augmente un peu la définition même de guerre, on se retrouve dans des situations très très critiques avec le libre-échange.
Mathilde Dupré.
Moi, je voulais aussi questionner le contenu même aujourd'hui des accords qu'on négocie avec les partenaires avec lesquels on est en négociation, puisque il y a des dispositions dans ces accords qui sont finalement de moins en moins des dispositions de libre-échange. Quand il s'agit de négocier, par exemple, les règles de protection intellectuelle et d'allonger les périodes de protection des brevets dans ces accords, on est davantage en train de donner des privilèges aux grandes entreprises qui sont déjà bien installés sur ces marchés-là, que de favoriser le libre-échange et l'entrée sur le marché d'autres acteurs économiques. Quand on négocie aussi des règles sur la protection des investissements et qu'on donne le droit à des investisseurs de porter plainte contre des États quand il y a des politiques publiques qui ont des impacts sur les profits escomptés de ces grands groupes multinationaux, est-ce que là, c'est vraiment du libre-échange aussi ? C'est vraiment quelque chose dont on pourrait discuter aujourd'hui.
Ça pose un certain nombre de questions et ça relance aussi le débat évidemment autour du protectionnisme. Est-ce que les politiques protectionnistes entravent véritablement le commerce mondial ? C'est une question qu'on peut se poser, Cécilia Ballorin.
Oui, alors ça effectivement c'est un peu ce qu'on voit, c'est-à-dire que sur le court terme, aujourd'hui, à mettre en place, par exemple, les mesures que les États-Unis sont en train de mettre en place depuis un an, ont clairement des impacts sur les flux commerciaux qui sont directement touchés par les mesures mises en place. Donc ces flux diminuent, on voit des baisses qui peuvent être spectaculaires, par exemple sur les flux de soja Du coup, là, ce sont les exportations de soja américain vers la Chine que la Chine a surtaxé en représailles. On a vu quasiment un arrêt du flux.
Donc, c'est échanges. Vrai à court terme, donc, mais est-ce que ça l'est à plus long terme?
Alors, par contre, aujourd'hui, on est dans un monde où, en fait, il y a des effets également de diversion, puisque les échanges sont assez nombreux et les droits de douane relativement faibles vers l'ensemble des partenaires. Et ce qui veut dire que les flux qui ne partent plus, si on reprend le cas du soja, vers la Chine, vont repartir, par exemple, aujourd'hui, vers l'Union européenne. Après, dans ce genre de situation, normalement, ça ne s'équilibre pas. Donc, il y a bien quelque part une perte. Mais au niveau mondial, si ce n'est que certains pays qui mettent en place des mesures protectionnistes et que sur certains produits, il peut y avoir des effets de diversion vers d'autres partenaires.
Et au Charles, sur l'impact du protectionnisme sur le commerce mondial?
Alors, c'est un peu complexe, mais à mon sens, dans mes travaux, je montre qu'on peut définir plusieurs types, plusieurs modalités de protectionnisme. Effectivement, on a un protectionnisme qu'on qualifierait à la Trump, qui est un protectionnisme nationaliste, qui s'appuie beaucoup sur les arguments des lobbies. Et donc là, effectivement, on serait plutôt vers un assèchement du commerce international. Mais permettez-moi de reprendre un exemple historique. La première mondialisation, c'est une période protectionniste, mais on est dans un protectionnisme qui est négocié à travers des traités de commerce qui, en fait, sont des échanges
de protection. Vous parlez de la belle
époque. Alors, 1850-1913, même plus certainement 1880-1913. Et donc là, on a un protectionnisme qui est tout à fait négocié. Et on voit qu'on a une croissance économique mondiale de l'ordre de 5%, que le commerce international n'est en aucun cas entravé. Et donc, on a finalement les deux qui cohabitent très bien.
Mathilde Dupré.
Tout dépend aussi ce qu'on appelle protection, parce que par exemple au moment où on a négocié l'accord de Paris sur le climat, la Commission européenne a demandé à ses négociateurs de ne prendre aucun engagement dans l'accord de Paris sur le climat qui pourrait avoir un impact négatif sur les échanges et sur le commerce. Et là, on voit que on pourrait penser des règles de protection à l'échelle internationale dans le cadre d'un accord international sur le climat qui pourrait prévoir de diminuer certains types d'échanges dans certains secteurs qui sont mauvais pour l'environnement. Et ça pourrait être une forme de protectionnisme acceptée par tous au nom d'impératifs climatiques supérieurs.
Faire du protectionnisme, ce n'est pas en soi désastreux si ça s'accompagne d'une politique industrielle. C'est comme l'ont fait de nombreux pays, comme l'a fait la Grande-Bretagne, la France, la Corée, le Japon aujourd'hui, la Chine. C'est-à-dire on protège une industrie naissante pour lui permettre de croître. Et puis quand elle est devenue vraiment compétitive, on lui permet d'affronter le marché. C'est ce qu'ont fait tous les grands pays. Mais les Européens ont cette tragédie d'avoir en commun une politique commerciale, mais pas en commun une politique industrielle. Donc, il faut une politique commerciale qui est dans le vide, puisque leur seul objectif, c'est de réduire les barrières douanières à l'égard des autres. Si nous avions eu, en Europe, il y a quelques années, décidé, bon, le solaire, c'est très important, on fait une politique de promotion d'une industrie, et on essaye d'ailleurs, en pensant autrement les règles de la concurrence, d'avoir des grandes entreprises européennes transnationale dans ce domaine, on aurait pu utiliser l'arme du protectionnisme provisoire comme une façon de construire une industrie. Mais on ne l'a pas fait du tout. Donc aujourd'hui, on a le pire des deux mondes, puisqu'on fait à la fois une politique protectionniste qui nous protège de rien, et en fait, on n'a pas d'industrie à protéger, puisque nos industries, dans le domaine du solaire, sont pratiquement tous mortes. Donc ça ne sert à rien.
Voilà, les propos très critiques de Jacques Attali, c'était sur France Culture en 2013. Une réaction à ce que l'on vient d'entendre, Cécilia Ballora, ça n'a pas de sens d'avoir une politique commerciale commune, mais pas de politique industrielle commune?
Alors en fait, clairement, ça renvoie un peu à la question des mécanismes qui sont derrière. Et là où c'est évident que quand on met en place une mesure de protection, en fait, admettons que ça soit que sur une industrie, on protège cette industrie-là. Donc cette industrie va pouvoir augmenter ses prix, va également voir augmenter sa demande, mais en même temps, on a toute la partie aval qui risque d'en souffrir, parce que du coup, elle va se retrouver avec des prix plus importants sur ses consommations intermédiaires, qui sont ensuite à répercuter aux consommateurs, etc. Et en plus, même sur les entreprises protégées, on l'a vu avec des mesures qui ont été mises en place en 2002 par les États-Unis, si la protection ne dure pas assez longtemps, en fait, on se rend compte que tout ce qui va se passer, c'est que c'est la rente pour les propriétaires des entreprises qui va augmenter, mais comme la protection est courte, ou en tout cas les investisseurs ne la sentent pas comme prolongée dans la durée, eh ben, il va y avoir peu d'investissements et du coup peu d'emplois générés. Et donc là, effectivement, on est dans le cas où c'est du perdant-perdant.
Est-ce que c'est tout de même vrai de considérer, Léo Charles, que l'Europe n'a pas assez protégé son marché intérieur?
Oui, à mon sens, alors comme le dit bien cet extrait, c'est que on pourrait avoir, n'a pas assez protégé, ça veut tout rien dire, c'est assez vaste. C'est-à-dire que on aurait pu faire un protectionnisme entre guillemets intelligent, moi je qualifie dans mes travaux de protectionnisme innovant, c'est-à-dire décider avec l'ensemble des parties prenantes, les syndicats, les patrons, le gouvernement, décider de protéger certains fleurons qui vont avoir une répercussion positive sur l'ensemble de l'économie, sur les chaînes en amont et en aval. Et donc là, effectivement, à mon sens, l'Union européenne aurait dû faire ça et doit se tourner vers ce type de politique commerciale.
Mais comment expliquer justement que ce type de choix n'a pas été fait ? Quelles sont les forces en présence qui empêchent la mise en place d'un certain nombre de mesures protectionnistes ?
Je crois qu'on peut remonter aux origines de la construction européenne, qui est une construction totalement économique, qui est basée sur cette idée que si on commerce, on ne se fera plus la guerre au sein de l'Europe. Et donc, on a déroulé finalement le fil de cette pensée libérale, ou maintenant ordo-libérale, dans un sens, on a dérégulé, on a ouvert les frontières, etc., en pensant vraiment que ça allait nous permettre de construire une économie européenne forte, ce qui est le cas. Maintenant, ça n'a pas été suivi par des volontés politiques en matière de construction industrielle,
Mathilde Dupré.
Il y a un autre exemple sur lequel la Commission européenne, par exemple, fait preuve d'un certain dogmatisme, c'est sur les marchés publics, puisque elle considère que les marchés publics doivent être ouverts à la concurrence de façon complète. Et résultat, la Commission européenne a imposé cette règle-là dans l'Union européenne, alors que quasiment tous les autres partenaires commerciaux réservent une part des marchés publics ou ont des règles pour privilégier des acteurs locaux dans les marchés publics. Et plutôt que de revenir sur cette décision-là et cette position-là et de dire peut-être qu'on peut nous aussi utiliser cet outil pour favoriser des produits à la fois socialement et environnementalement mieux disants, et éventuellement privilégier l'emploi local pour renforcer l'acceptabilité sociale de la transition écologique, par exemple, qu'on a menée. L'Union européenne tend à s'enfermer dans sa vision de principe.
Il faudrait en Europe un équivalent du Buy American Act, cette loi fédérale américaine qui impose au gouvernement américain l'achat de biens produits sur le territoire des États-Unis, Cécilia Ballora.
Alors, je ne sais pas si c'est ça ce qu'il faudrait, mais en tout cas, là, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que la politique qu'on a aujourd'hui est quand même le fruit, en fait, de négociations entre les États membres, et que du coup, on voit souvent dans ce type de négociations, donc dans la discussion, est-ce qu'on ouvre davantage nos marchés, ou est-ce qu'au contraire, on les garde un peu plus protégés, il y a souvent un clivage entre les États membres, avec des États du nord de l'Europe qui sont plutôt sur des positions assez ouvertes, de libre-échange le plus ouvert possible, et des États du sud de l'Europe qui sont eux par contre un peu plus sur des positions comme celle plus proche de la France par exemple. Et du coup, la politique commerciale qu'on a aujourd'hui est le résultat de déséquilibres de négociation entre ces deux approches différentes, puisqu'en fait c'est pas l'Union européenne qui a décidé toute seule, c'est-à-dire que c'est le fruit des négociations. Ceci dit, on va peut-être voir des choses qui vont évoluer avec en passant de 28 à 27, si on passe de 28 à 27, c'est-à-dire que
si le Brexit a vraiment lieu,
absolument, c'est-à-dire que le Royaume-Uni pouvait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, et donc on verra qu'est-ce que vont donner les négociations à 27, si on en a à 27.
Les équilibres pourraient être transformés, mais ça pose en tout cas la question de cette politique industrielle commune. On a vu par exemple que la fusion entre Alstom et Siemens a été empêchée. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de cette impression qu'on peut avoir que aucun champion européen ne peut véritablement émerger ? C'est une critique qui a pu être soulevée, Léo Charles ?
Pour moi, oui, c'est une critique et c'est une chose nécessaire. L'Union européenne, en tant que région économique, doit faire émerger des spécialisations industrielles. Alors, ça a été un peu le cas avec Airbus, notamment. Mais il faut renforcer. Il y a aujourd'hui plein d'enjeux et parmi le premier, l'enjeu du réchauffement climatique. On peut développer des spécialisations et des choses comme ça autour tout ce qui est éolienne, tout ce qui est transition énergétique. Et là, on a besoin finalement, le libre-échange, l'ouverture des frontières ne nous aidera pas dans cette voie-là, et on a besoin d'une intervention forte des États, du point de vue de la fiscalité, mais à mon sens aussi du point de vue d'une protection de ces industries le temps qu'elles émergent et qu'elles grossissent.
Il y a peut-être une nécessité aussi d'avoir des règles unifiées qui permettraient de contrôler les investissements étrangers, Cécilia Ballora.
Oui, effectivement, il y a cette question-là aussi, il y a également la question, et donc On voit en fait dans tous ces domaines le décalage entre le fait d'avoir une politique commerciale exclusivement européenne et pas celle qui suit. Donc les investissements, la question climatique, alors elle est un peu centralisée au niveau UE mais pas que. Et puis on le voit également sur la répartition des gains au libre-échange, s'il y en a encore. C'est-à-dire que quelque part la théorie économique nous dit qu'aujourd'hui il y a des gains qui sont faibles, qui ne sont pas homogènes entre tous les secteurs. Donc il y a des gagnants, des perdants. Quand on fait la somme, on trouve encore des gains, même si petit. Le problème, c'est que en quelque part, les gagnants gagnent suffisamment pour qu'on puisse indemniser les perdants, sauf que cette politique de transfert, elle n'est pas centralisée au niveau UE non plus. Et donc, ce transfert-là ne se fait pas forcément à chaque fois, en sachant que cette discussion-là est une discussion économique uniquement, avec toutes les externalités qui manquent derrière.
Mathilde Dupré, puis Léo Charles, vous vouliez réagir?
Mais c'était un des constats du rapport de la commission des experts mandatée par le gouvernement pour évaluer les impacts sanitaires et environnementaux du CETA, l'accord négocié avec le Canada. Effectivement, ils avaient dit les bénéfices à attendre des accords de libre-échange ont par le passé été surestimés par leurs promoteurs, tandis que les conséquences distributives ont été minimisées et les externalités négatives tout simplement ignorées. Et c'est un peu à cause de cette situation qu'on se retrouve aujourd'hui dans une confusion et une grande méfiance à l'égard de la politique commerciale qui est menée par l'Union européenne. Et c'est peut-être, comme le dit l'économiste américain Danny Roderick, un peu tard pour simplement répondre en organisant un petit peu plus de transferts vers les perdants de la mondialisation, parce que aujourd'hui la remise en cause elle est plus profonde que ça, et sans compter tout l'aspect impact sur l'environnement qui doit nous inviter à revoir assez profondément les règles commerciales pour organiser à la fois la production, la consommation et les échanges de façon plus cohérente et compatible avec les limites de la planète.
Le constat est ainsi posé, et en même temps ce qu'on constate c'est que justement ces traités continuent à être négociés. Je le disais, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les négociations ont commencé. Comment expliquer que cette politique se poursuive, Léo Charles?
Je n'arriverai pas à l'expliquer, mais juste peut-être pour rebondir sur les gagnants et les perdants, parce que c'est assez intéressant. On nous a vendu l'idée comme quoi la mondialisation libérale serait gagnant-gagnant. Or, on voit dans les études aujourd'hui qu'il y a effectivement des perdants. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on fait un lien. Il y a une étude de 2018, là, très récente, qui fait le lien entre ces perdants de la mondialisation et la montée de ce qu'on a appelé le populisme ou le vote d'extrême droite. Donc, des positions très nationalistes. Et donc, finalement, l'Union européenne se trouve un peu bloquée à vouloir à tout prix construire sa région sur des éléments économiques. On en vient finalement à détruire ce qui fait consensus, et on est en train de détruire finalement la vision politique de l'Union européenne.
Et le fait que l'Europe protège peut-être insuffisamment son marché intérieur, aussi en raison de la difficulté des États à se mettre d'accord, est-ce que c'est ce qui explique que l'Union européenne ne parvienne pas à négocier aujourd'hui de puissance à puissance avec Pékin, alors même que le déficit commercial de l'Europe avec la Chine continue de se creuser, Cécilia Malora?
Alors là, il y a deux questions, c'est-à-dire qu'il y a des positions politiques et effectivement avec des avis partagés entre à la fois l'intérêt, donc la peur que une remontée des droits, une éventuelle non-négociation, une négociation qui se passe mal, ait un impact fort sur les exportations européennes, et quand même la Chine est un des premiers partenaires commerciaux européens. Donc il y a un peu cet aspect-là, et puis il y a tout l'aspect de la difficulté de négocier avec la Chine. Alors en sachant, donc ça c'est le deuxième point, c'est que la négociation commerciale, elle peut avoir plein d'objectifs, mais par contre, elle n'impactera pas forcément la balance commerciale. C'est-à-dire que le déficit commercial, alors ça c'est compliqué, mais en fait la politique commerciale n'a pas un impact direct sur la balance commerciale. Donc Donald Trump
c'est l'argument invoqué par Trump.
Pour le coup, c'est l'inverse. C'est-à-dire il se bat, il met des droits de douane dans tous les sens en disant je vais rattraper ma balance commerciale. Et la démonstration que ça ne marche pas, c'est que son déficit se creuse, parce que du coup, une balance commerciale, c'est le résultat de d'équilibre macro économique, donc d'un écart entre investissement et épargne. Donc ce qui va se passer avec une négociation commerciale, c'est qu'on va peut-être décaler toute la balance vers le haut ou toute vers le bas, mais on va pas la rendre positive d'un coup ou négative d'un autre coup. Donc c'est plutôt des questions de création de chaînes de valeur, etc.
Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocchini.
Stupid on the Steinway, you're sick upon the Steinway, the floor is stupid, it plays as never so out of key. Sister of mine, home again. Sister of mine. Even dreams must follow me so stupidly. Words are all just useless sound. Just like cards they fall around and we will be. Sister of mine, home again. Sister of mine. See them fall the dust, they fall around. In another crowded room, point me like the shirt I'm in. Honestly, sister of mine.
Europe des Foo Fighters, Léo Charles, Mathilde Dupré et Cécilia Bellora sont toujours avec nous sur France Culture dans Entendez-vous l'écho pour parler de la place de l'Europe dans la mondialisation. Alors on l'a dit, la nature des traités commerciaux est elle aussi en train d'évoluer. Les négociations portent de moins en moins sur les droits de douane et de plus en plus sur les règles de protection des consommateurs, des travailleurs et de l'environnement. Et ce sont des règles que les traités ont justement tendance à faire sauter, Mathilde Dupré.
Effectivement, aujourd'hui, pour fluidifier les échanges, comme les droits de douane ont déjà beaucoup baissé avec les négociations multilatérales, on arrive à négocier de plus en plus sur les règles de protection. Alors, ça peut être des normes techniques, les couleurs de clignotants des voitures, mais ça peut aussi être des normes sociales, environnementales ou sanitaires. Et du coup, là, on arrive rapidement sur des sujets qui peuvent être assez sensibles parce que ce sont le fruit de délibérations collectives, de l'élaboration de préférences collectives à l'échelle de société. Et donc, on l'a vu dans les négociations avec les États-Unis, mais même avec le Canada, on a des modèles agricoles notamment qui sont très, très différents parce que entre des poulets au chlore, lavés au chlore et des règles sanitaires beaucoup plus strictes de part et d'autre. Enfin, il y a des choses qui sont diamétralement opposées.
En 2016, les États-Unis avaient identifié comme des barrières au commerce plusieurs règles européennes sur le clonage animal, les OGM, la qualité des carburants. Donc on voit que c'est en tout cas très identifié du côté des États-Unis.
C'est ça, les États-Unis font chaque année un rapport assez détaillé de toutes les mesures de leurs partenaires commerciaux qu'ils considèrent être des barrières au commerce. Et il se trouve qu'il y en a quand même un très grand nombre qui n'ont pas été élaboré pour bloquer l'entrée de produits extérieurs, mais simplement parce que les normes que les consommateurs européens ont envie de voir respectées.
Au moins, c'est ce qui est dans le collimateur des Américains.
C'est assez clair, mais c'est là où effectivement les négociations sont compliquées, d'autant qu'on passe sur des accords qui sont donc des accords de nouvelle génération dans lesquels il y a des nouveaux mécanismes de coopération réglementaire qui, même une fois que les accords sont négociés, prévoient qu'on va avoir des mécanismes de dialogue au sein desquels on va pouvoir continuer à négocier en fait. pour voir, pour essayer de réduire au maximum l'impact sur le commerce des règles actuelles et futures. Et donc, par exemple, avec le Canada, on a un comité qui travaille sur les règles sanitaires et phytosanitaires. Et la première année de mise en œuvre de l'accord, la première réunion de ce comité, le Canada a mis à l'ordre du jour la question de l'interdiction éventuelle du glyphosate dans certains pays membres de l'Union européenne. Et donc, en faisant valoir ses inquiétudes, ce que ça pourrait avoir sur les exportations canadiennes vers l'Union européenne. Donc là, on voit que on risque de se lier les mains et de rendre encore plus difficile la prise de décision à l'échelle nationale ou européenne sur des sujets importants en faisant intervenir et en donnant un droit de regard à nos partenaires commerciaux sur ce type de normes.
Justement, arrêtons-nous un petit peu sur le CETA, donc, qui est entré en vigueur il y a un an et demi, qui a été beaucoup critiqué pour son impact environnemental notamment. Quel premier bilan est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui ? Bruxelles a mis en avant les bons résultats économiques du CETA qui auraient permis une augmentation en valeur des exportations depuis l'Europe vers le Canada de 7%. Donc sur ce point-là, au moins, le bilan est positif, Cécilia Ballorin.
Alors, toute la question, toujours les évaluations comme ça, juste à aussi court terme, sont toujours un peu compliquées. C'est-à-dire que peut-être qu'on a... Alors, je ne me suis pas penchée spécialement sur la question, mais il faut toujours se poser la question de se dire, bon, on a une augmentation de 7%, mais est-ce que c'est vraiment le CETA ou est-ce que c'est autre chose? C'est-à-dire que est-ce qu'il y avait de toute façon une croissance des exportations? Et du coup, voilà. Bon, certainement, le fait d'avoir moins de barrières sûrement aide. Ce qu'on a vu là où c'est plus facile, c'est qu'il y a eu, par exemple, des quotas, enfin, donc des volumes d'exportation qui ont été autorisés vers le Canada sur certains produits agricoles, par exemple le fromage, et que ces quotas-là ont été complètement remplis. Donc effectivement, il y a quelques secteurs qui ont sûrement pu bénéficier. Alors après, on revient comme d'habitude à la même question, c'est... quand on regarde dans le détail, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les gagnants? Quels sont les perdants? Voilà. Et donc ça, juste à un an d'après, je pense qu'aujourd'hui, on commence à voir tout juste les données de commerce sur l'année passée, donc c'est compliqué.
Léo Charles, sur un premier bilan, même difficile à établir de ce CETA.
Pareil, je ne suis pas spécialiste de la question, mais c'est toujours un peu difficile de faire des bilans comme ça qui sont uniquement économiques. C'est-à-dire, c'est vrai que si on va regarder la croissance des exportations ou la croissance économique, on va peut-être avoir une indication. Maintenant, il faut faudrait coupler ça avec des évaluations de des effets environnementaux, des effets sociaux, et notamment, alors ce qui est assez entre guillemets dangereux avec ces traités de commerce, c'est que ça vient de plus en plus sur les services. Or en France, le dernier bastion finalement qui se protège de cette mondialisation, ce sont nos services publics. Alors je parle pas là du CETA spécifiquement, mais on peut s'inquiéter du fait que de tout libéraliser comme ça, on en arrive à détruire nos services publics. C'est le cas, on le voit actuellement avec la SNCF, et on peut prévoir que ce soit le cas avec d'autres services publics.
Et puis vous l'évoquiez, Léo Charles, ce qui a été également très critiqué dans les traités, c'est cette possibilité accordée aux investisseurs d'attaquer les États devant des tribunaux d'arbitrage quand ceux-ci adoptent des règles qui nuisent à leurs intérêts. On voit que ces juridictions d'exception se multiplient, Mathilde Dupré.
Alors effectivement, l'Union européenne, c'est une nouvelle compétence pour elle de pouvoir négocier des accords avec un volet protection des investissements et donc avec un mécanisme d'arbitrage d'investissement. Ça, c'est depuis le traité de Lisbonne qu'elle peut mener ce volet-là de la négociation. Et donc, elle voulait le mettre avec les États-Unis, elle l'a mis avec le Canada, avec le Japon, c'est pas encore dedans, mais ça fait l'objet d'une négociation séparée.
Mais avec le Canada, ça doit être ratifié par les parlements nationaux.
Et effectivement, avec le Canada, ça fait partie de ce qui n'est pas encore entré en application provisoire, et ce n'est qu'après la ratification par l'ensemble des États membres que ce volet-là pourrait effectivement rentrer en application. Sauf qu'on a par exemple vu très récemment une illustration de ce que ça pourrait donner à long terme, parce que les Amis de la Terre, l'association des Amis de la Terre a révélé comment dans la préparation de la loi Hulot sur la fin des hydrocarbures en France, il y avait eu intervention d'une entreprise canadienne, l'entreprise Vermillon, auprès du Conseil d'État, en faisant valoir un autre accord de protection des investissements, le traité sur la charte de l'énergie, et en menaçant le Conseil d'État de poursuite via cet accord-là si un certain nombre de dispositions de la loi Hulot n'étaient pas revues à la baisse. Elle a eu gain de cause puisque la loi Hulot a été affaiblie sur les points qui étaient ciblés par l'entreprise. Alors, ce n'est peut-être pas exclusivement le résultat de cette pression-là, mais ça montre que ça donne des capacités d'intervention supplémentaires aux entreprises et qui, si elles n'obtiennent pas gain de cause en amont des discussions sur les lois, pourraient effectivement déclencher des contentieux via ces tribunaux d'arbitrage, et avec le CETA, ça pourrait se multiplier, d'autant que 80% des entreprises américaines, enfin états-uniennes, qui ont des activités en Europe, ont aussi des filiales au Canada, donc elles pourraient structurer leurs activités de manière à pouvoir, elles aussi, pouvoir bénéficier de cette possibilité de ces tribunaux d'arbitrage.
Cécilia Ballorin.
Alors, effectivement, sur ces tribunaux d'arbitrage, le débat est très vif, et en plus, le sujet est extrêmement complexe. Donc, il y a tout pour que ça soit compliqué. En fait, effectivement, les tribunaux d'arbitrage peuvent donner un moyen de pression, c'est-à-dire que les entreprises ne peuvent pas empêcher les gouvernements de légiférer, mais par contre, elles peuvent dire très bien, mais vous faites ce que vous voulez, mais à partir du moment où ça m'empêche, enfin, je n'ai pas les gains que j'ai escomptés parce que vous avez modifié votre réglementation, alors vous me devez des dommages et des intérêts. Et ces dommages peuvent être gigantesques. On le voit dans le cas en cours aujourd'hui, quand Vattenfall contre l'Allemagne sur des questions du nucléaire. Et du coup, ça peut complètement bloquer le côté législatif. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que il y a eu quand même une évolution de la façon dont ces tribunaux sont montés, bien qu'on continue, il continue à y avoir un débat complètement fondé sur le côté est-ce qu'on en a vraiment besoin. Il faut quand même noter que dans la dernière version, qui est celle qui est apparue dans le CETA, il y a quand même quelques rappels qui n'existaient pas dans les versions d'avant sur les questions d'intérêt général. Parce qu'en fait, ce qui se passait dans les tribunaux d'avant, c'est que ces tribunaux, où ce ne sont même pas des juges qui décident, ce sont des experts, en fait, ils ne décident que sur la base de ce qui est contenu dans l'accord. Et quand c'est un accord d'investissement, eh bien l'accord d'investissement dit vous avez le droit d'investir, il ne faut pas qu'on vous retire vos intérêts, et donc voilà. Alors que dans le CETA, l'Union européenne a commencé à mettre quand même en avant les questions, on a le droit de légiférer pour protéger l'intérêt général, on a le droit de légiférer sur des questions environnementales, etc. Et ce qui fait que toute la difficulté est là. Donc ce qu'on voit, les cas qu'on voit, ce sont des cas qui sont basés sur d'anciens systèmes, sur le nouveau système.
Peut-être que le nouveau système a des garde-fous.
Voilà, mais en même temps, on n'en est pas sûr. Et puis, dans le fond, est-ce qu'on en a vraiment besoin ?
Léo Charles, sur cette question des tribunaux d'arbitrage et sur le fait que peut-être les États-Unis et le Canada commencent à faire machine arrière au sujet de ces tribunaux d'arbitrage d'investissement.
Mais j'espère qu'ils vont vraiment faire marche arrière, parce que c'est très inquiétant, et ça montre, on dit souvent que le protectionnisme c'est les consommateurs qui vont payer, etc. Là, on voit vraiment que le libre-échange et cette volonté de tout libéraliser, ça entraîne des choses où c'est finalement le travailleur et le citoyen qui paient la facture, et ça, à mon sens, c'est problématique. On peut pas justifier d'une ouverture des frontières si ça entraîne des choses telles que les tribunaux d'arbitrage.
Mathilde Dupré.
Mais ce qui est très, très important à relever, c'est que les États-Unis et le Canada, qui avaient été les premiers pays riches, en fait, à se doter d'un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États dans l'accord ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain qui a été mis en œuvre en 1994, ont décidé, là, dans la récente renégociation de l'ALENA, d'abandonner le système de mécanisme de règlement des différends entre eux.
Alors,
ça reste en vigueur avec le Mexique, mais par contre, entre le Canada et les États-Unis, c'est fini. Et donc, du côté canadien, la ministre des Affaires étrangères a justifié cette décision en disant ça a coûté des millions aux contribuables canadiens de devoir compenser les entreprises multinationales, essentiellement américaines, qui avaient attaqué contre des législations, notamment environnementales et climatiques. Et donc, c'est une façon de récupérer un peu de souveraineté et de capacité d'agir pour l'État canadien dans ce domaine. Et même côté américain, alors qu'ils n'ont jamais été condamnés via ce mécanisme. Le représentant au commerce américain a fait un aveu assez surprenant devant le Congrès en disant il y a des projets de législation qui étaient soutenus à la fois par les démocrates et les républicains, des projets de législation d'intérêt général qui n'ont pas vu le jour par crainte de poursuites de la part d'investisseurs. Donc voilà, même un État comme les États-Unis pourrait être sujet à ce risque de gel réglementaire face à ce pouvoir de menace des multinationales. Donc là, on voit un revirement qui est très intéressant. Et donc pourquoi conserver un mécanisme comme celui-là avec le Canada dans un nouvel accord comme le CETA ? La commission Schubert, les experts qui avaient été mandatés mandatée par le gouvernement, disait que c'était pas forcément nécessaire et que il fallait continuer, enfin que au moins les, par exemple les politiques climatiques devaient être complètement protégées, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, même avec les réaménagements qui ont été faits. Malheureusement, le gouvernement est pas en train de mettre en œuvre les recommandations de cette commission sur ce sujet.
L'Europe a simplement cédé à la pression des investisseurs, Léo Charles.
Alors, je ne sais pas si elle a cédé à la pression des investisseurs, mais elle est pro-investissement, ce qui est sûr. Alors, ce qui est intéressant, ce que je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est que, encore une fois, l'Union européenne est le bon élève du libre-échange mondial. Et c'est assez intéressant de voir que, finalement, on propose des éléments, comme ces tribunaux d'arbitrage, qui, finalement, sont décriés dans les autres pays. Et nous, l'Union européenne, on les propose avec 10 ans de retard. Ça a été exactement la même chose sur, par exemple, la privatisation du rail. Les Britanniques sont en train d'y revenir, veulent une renationalisation. Les prix des billets ont explosé. Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? On propose une nationalisation. Donc,
c'est pour ça qu'Hubert Védrine parlait de l'Europe comme de l'idiot du village global, une expression qui depuis a été beaucoup utilisée.
Alors, idiot, je ne sais pas, mais bon élève, en tout cas, ça c'est sûr.
Alors, on parle des gagnants, on a parlé des gagnants et des perdants de cette mondialisation. Pourtant, l'Europe dispose d'instruments efficaces pour se protéger. Cécilia Ballora, la réglementation anti-dumping notamment, et elle ne se prive pas de l'utiliser. Elle a régulièrement recours à cette réglementation.
Absolument. En fait, complètement en ligne avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce, on a des instruments pour de défense, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter de façon globale nos droits de douane. Ça, on peut pas, tant qu'on reste dans le cadre des règles de l'OMC, on ne peut pas le faire. Par contre, on peut se protéger. Alors, soit sur un produit donné contre l'ensemble des partenaires, ça c'est ce qui s'appelle une mesure de sauvegarde, c'est-à-dire qu'à un moment, on voit un pic dans nos importations d'un produit où on se dit ça risque d'arriver et on remonte les droits. C'est ce qu'on vient de faire en janvier dernier sur l'acier et l'aluminium, puisqu'on s'est dit comme les États-Unis ont mis en place des mesures contre la Chine, et d'ailleurs contre plein de pays, on risque d'avoir des flux commerciaux qui risquent de revenir vers l'Europe, et on ne veut pas de ça, et on a remonté les droits de douane sur l'acier pour être précis. On a également deux autres systèmes qui sont très proches, c'est-à-dire l'anti-subvention et l'anti-dumping. Donc en gros, et ça ce sont des systèmes qui sont beaucoup plus ciblés, c'est-à-dire qu'on va cibler un produit donné, exporté par une entreprise ou certaines entreprises d'un pays donné. Par exemple, je vais vous faire un exemple, le boulon dimension 7, diamètre 7 qui vient de telle entreprise chinoise. Et là, en fait, par contre, c'est très encadré, c'est-à-dire qu'il faut qu'on démontre qu'il y a du dumping qui existe et que ce dumping va causer des dégâts sur les entreprises européennes. Alors, on ne se prive pas d'utiliser ces instruments. Quand on a regardé ça, alors, c'est pas les données les toutes dernières, elles ont 2 ans, mais ça n'a pas changé beaucoup depuis. Aujourd'hui, il y a 8% des importations européennes en provenance de Chine qui sont protégées par ce type de droit. Et quand on met des droits additionnels là-dessus, ce sont des droits contre la Chine, par exemple. En moyenne, c'est des droits de 40%, alors que le droit moyen sur ce type de produit, c'est quelques pourcents, voire rien. Mmh. Et avec ces 40%, on se rend compte qu'en fait, on bloque complètement les flux d'exportation. Donc, on a des instruments qui sont plutôt ponctuels et qu'on peut utiliser.
Mais est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Et en l'occurrence, vous parlez des mesures de sauvegarde, mais elles sont quasiment jamais utilisées.
Elles sont utilisées plus souvent qu'on ne le pense. Et oui, elles sont efficaces sur les produits touchés, mais c'est clair qu'on ne va pas monter une politique, pour revenir à la question de tout à l'heure, industrielle sur ces mesures-là. C'est-à-dire que certains pays, les États-Unis, parfois on a des débats de ce type aussi en Europe, essayent de protéger certaines entreprises avec ce type d'instruments et de les protéger sur le long terme. Or, ce sont vraiment des instruments de protection commerciale et pas de politique industrielle. Il faut avoir une politique industrielle derrière si on veut les utiliser pour ça.
Et puis sur les mesures anti-subvention, comment est-ce qu'on parvient à prouver que tel produit a bénéficié de subventions? Alors c'est notamment beaucoup la Chine qui est visée.
Oui, aujourd'hui c'est le très très gros débat, c'est-à-dire que les règles de l'OMC existent à l'OMC, mais par contre elles n'ont pas été faites en ayant en tête ce qu'est la Chine d'aujourd'hui. C'est-à-dire, et donc on a énormément de mal à la fois à caractériser qu'est-ce que c'est qu'une subvention en Chine, parce que ça peut être extrêmement diffus, ça peut passer par des canaux qui ne sont vraiment pas transparents, donc déjà aller identifier quelle est la mesure qui pose problème pour ensuite corriger ça, c'est, enfin en tout cas imposer des droits de douane est extrêmement compliqué, et du coup on a un vrai besoin d'ajuster les règles de l'OMC, et c'était d'ailleurs ce qui est débattu et ce qui est dans la proposition de réforme de l'Union européenne, pour arriver à se protéger mieux contre ce type de pratique.
La Chine n'est pas encore une économie de marché et nous allons devoir réviser dans une certaine mesure les conditions dans lesquelles nous pratiquons, je dirais, le calcul des droits anti-dumping. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous n'allons pas pouvoir lutter contre les pratiques déloyales qui malheureusement continuent à s'appliquer. Il n'y a pas de définition d'économie de marché au sein de l'OMC. Vous êtes membre de l'OMC, vous n'êtes pas membre. Il y avait dans le passé un régime dérogatoire pour les pays qu'on choisissait de ne pas appeler communistes, qui étaient considérés comme des pays qui n'étaient pas des économies de marché. Ça ne veut pas dire que tous les pays qui sont membres de l'OMC sont des économies de marché parfaites. Mais bien entendu, les règles de l'OMC s'appliquent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à lutter contre les pratiques déloyales.
Jean-Luc Demarty, le directeur général du commerce à la Commission européenne sur France Inter, le 12 décembre. Alors voilà ce qu'il nous dit. La Chine fait partie de l'OMC depuis 2001 sans être pleinement une économie de marché. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait mettre en place des mesures de défense spécifiques face à la Chine, Léo Charles ?
Non. Pas forcément face à la Chine. Là, on retourne dans un vocabulaire un peu guerrier. Il faut attaquer la Chine, etc. Il faut se protéger contre la Chine. L'idée, enfin, moi, ce que je défends, enfin, à partir de la première mondialisation notamment, ce serait réinventer les règles de l'OMC plutôt que voilà de déréguler le marché mondial, de faire tomber toutes les barrières et du coup de nourrir ces stratégies un peu nationalistes et indépendantes. Pourquoi pas réorganiser l'OMC sur la base d'un protectionnisme qui serait peut-être négocié et qui permettrait de répondre, à mon sens, à la guerre à laquelle on fait réellement face, hein, celle du réchauffement climatique, qui permettrait de réarmer les États et d'amener finalement une solidarité entre les différents États, une coopération, parce qu'actuellement, l'OMC est censée réguler le commerce international. Or, elle ne fait que, j'ai l'impression, attiser le feu et attiser les braises. Donc pourquoi pas voilà négocier un protectionnisme et ça évitera ces stratégies un peu nationalistes en y ajoutant de la coopération.
Et en même temps, Cécilia Ballora, et on arrive presque au terme de cette émission, mais l'OMC semble particulièrement mal en point. Est-ce qu'on peut réussir à réformer le système commercial multilatéral ?
Alors ça, c'est clairement l'enjeu de l'année, là, de 2019, puisque à partir du mois de décembre, on aura, si rien ne change, on n'aura plus de système de règlement des différends. En tout cas, il sera là, mais il sera complètement grippé. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de système pour faire appliquer concrètement les règles de l'OMC. Et donc, ça risque de tout mettre à mal. Donc, c'est vraiment l'enjeu, et c'est là-dessus que sont en train de travailler les membres de l'OMC, c'est-à-dire arriver à la fois débloquer ce système de règlement des différends, mais surtout à régler les problèmes plus de fond qui sont liés donc à ces questions de pratiques commerciales de la Chine. Essayer de les encadrer et puis se poser également la question s'il faut lier les questions commerciales à des questions autres commerciales, donc environnement, social, etc. Donc c'est vraiment l'enjeu de l'année.
Et en même temps, peut-être qu'il faut réinventer une politique commerciale qui puisse par exemple rétablir des barrières douanières qui compenseraient les différences de normes fiscales, sociales et environnementales entre les pays. Il y a aujourd'hui une volonté, des idées qui émergent et notamment une mobilisation de la société civile qui est importante dans ce sens, Mathilde Dupré.
Disons qu'aujourd'hui, il apparaît indispensable d'exiger le respect d'un socle minimum qui serait en fait les grands textes internationaux, les conventions de l'OIT sur le travail, les règles des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains, les traités internationaux sur l'environnement, etc. Et que tous ces textes qui ont été internationalement acceptés soient effectivement mis en œuvre par les États et qu'on puisse mettre des mécanismes d'ajustement aux frontières si on considère qu'ils ne sont pas respectés, à la condition que l'argent qu'on collecterait avec ces mécanismes d'ajustement aux frontières puisse être effectivement reversé aux pays qui sont le plus éloignés de la mise en œuvre de ces standards internationaux pour qu'ils puissent progresser. Et là, on aurait un vrai système international vertueux qui permettrait de pousser tout le monde vers le haut.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur l'alliance pour le moins étonnante entre la Roumanie et le géant mondial des boissons gazeuses.
Mais oui, c'est une nouvelle qui a fait relativement peu de bruit, mais Bucarest, qui assure la présidence tournante de l'Union Européenne, a choisi parmi ses sponsors officiels la multinationale Coca-Cola. La firme américaine est même partenaire platine de la Roumanie, ce qui la classe parmi les plus généreux donateurs, aux côtés d'entreprises comme Renault, Mercedes-Benz ou encore le géant pétrolier OMV Petrom. Une pratique qui n'est cependant pas nouvelle. Tous les ans, de généreuses firmes se dévouent à la noble cause européenne et contribuent au financement des événements liés à la présidence de l'Union. Ainsi, en 2012, Chypre était sponsorisée par l'américain Microsoft. En 2014, c'est la Grèce qui utilisait les véhicules de standing mis à sa disposition par Audi. Rien n'interdit donc à une marque de sponsoriser un pays lors de sa prise de décision.
Il faut dire qu'assurer la présidence du Conseil de l'Union coûte cher en réception et en réunion de travail.
Oui, et surtout que les institutions européennes n'en assurent pas le financement. L'ardoise parfois très salée de ces sauteries de qualité est donc intégralement à la charge des pays hôtes. Les capitales européennes sont donc tentées de faire appel à ces puissants mécènes, mais ces parrainages sont généralement assurés discrètement, sans trop d'effets de manche ni de publicité. Ce sont ainsi souvent des partenariats avec des marques nationales et des constructeurs automobiles. Et quand on fait appel à de puissantes multinationales, surtout ne pas trop le faire savoir. Or, c'est justement ce qui a perdu la Roumanie cette année, qu'elle ne fut pas la surprise en effet des participants à une réunion de haut vol le mois dernier, de voir l'espace qui leur était réservé entièrement décoré de frigos et de fauteuils aux armes de la firme américaine. À l'entrée, un panneau affirmait glorieusement « Le système Coca-Cola soutient fièrement la première présidence roumaine du Conseil de l'UE ». Pour le moins fâcheux quand on sait que cette même présidence clame par ailleurs que, par définition, la présidence doit être neutre et impartiale durant l'exercice de son mandat.
L'association de défense des consommateurs Foodwatch dénonce même des risques de collusion et de conflits d'intérêts.
Oui, d'autant que les dirigeants européens doivent examiner un certain nombre de dossiers alimentaires, parmi lesquels la loi générale d'alimentation qui fixe les standards sanitaires européens en la matière. Parmi ces points, la révision possible de l'étiquetage nutritionnel auquel Coca-Cola est très fortement opposé. Une situation d'autant plus préoccupante qu'en 2016, des documents internes de la firme avaient fuité. Documents qui expliquaient point par point la stratégie de Coca-Cola pour riposter aux décisions allant contre ses intérêts. Dans le viseur du géant des boissons, la limitation des publicités pour les boissons sucrées, des restrictions sur la caféine ou même une hypothétique taxe sur le sucre.
L'ONG a donc demandé que cesse immédiatement ce partenariat avec le géant du Coca.
Exactement. Dans une lettre ouverte adressée à la première ministre roumaine et au président du Conseil européen, l'ONG estime ainsi que les conflits d'intérêts et d'influence d'un tel sponsoring par un poids lourd de la malbouffe sont inacceptables. Elle appelle également les institutions européennes à établir des règles claires pour éviter ce type de situation manifestement problématique. Elle rappelle surtout que la présence de Coca-Cola, symbole absolu du capitalisme tentaculaire dans ses espaces de pouvoir, jette le doute sur la légitimité des décisions prises par l'Union et mine encore davantage la confiance des citoyens envers la politique et les décideurs européens.
Safe European Home des Clash. Merci beaucoup Léo Charles, Mathilde Dupré et Cécilia Bellora d'avoir été avec nous aujourd'hui. Demain, on examinera l'Europe en pièces. L'euro sera au cœur de nos réflexions en compagnie de David Kella et de Christian Saint-Etienne. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.